Vous écoutez France Culture.
Ainsi, hier soir, au ministère des Affaires étrangères, était signé par la France, l'Alliance du vaccin et la fondation Bill et Melinda Gates, un accord destiné à accroître la couverture vaccinale dans 6 pays francophones du Sahel, le tout avec un budget de 100 millions d'euros. Cet accord rentre dans le cadre d'une augmentation des partenariats publics-privés entre les fondations et les États, des États qui, pour la plupart, ont pourtant dans le même temps baissé leur contribution à l'aide au développement. La France, par exemple, qui s'était engagée à consacrer 0,7% de son revenu national brut à l'aide publique au développement, n'y consacre finalement que 0,36%. Les États comptent-ils sur la richesse des fondations privées pour pallier ainsi à leur manquement? La France est-elle toujours un moteur en matière d'aide au développement? Le secteur privé est-il devenu l'acteur indispensable du développement? Et l'avenir du monde passe-t-il par les philanthropes américains? Ah, ben voilà des questions que nous aborderons aussi avec celui que l'on dit être toujours l'homme le plus riche du monde, l'impatient optimiste Bill Gates, en visite à Paris pour quelques jours et qui sera cet après-midi sur la pelouse de Solidays pour la lutte contre et la recherche contre le sida. Mais avant cela, il y a un homme qui a dîné hier soir, tenez, avec Bill Gates, le hasard fait bien les choses, et qui préside lui une fondation dont les objectifs relèvent aussi du développement, mais cette fois-ci du développement économique de l'Afrique. Et cet homme, c'est le franco-béninois Lionel Zinsou. Bonjour Lionel Zinsou.
Bonjour Marc.
Votre parcours donne le tournis, École Normale Supérieure, Sciences Po, London School of Economics, puis Danone, puis la Banque Rothschild, puis Paribas Affaires Industrielles, tout en étant l'espace de quelques années la plume de Laurent Fabius, le conseiller du président béninois, ou encore l'un des membres du Conseil des Affaires étrangères du Quai d'Orsay. Et aujourd'hui, j'aurais dû commencer par ça, pardonnez pour mon manque de diplomatie et de protocole, vous venez d'être nommé Premier ministre béninois. Et vous vous arrêtez où?
Écoutez...
Ah oui, il manque la présidence de la République.
Non, pour l'instant, il manque rien.
Pour l'instant,
il ne manque rien. Non, écoutez, on m'a demandé à un moment où je prenais un peu plus de champ dans le domaine des entreprises, de faire mon devoir de citoyen, de prendre une responsabilité sur le développement économique. Et on l'a assorti parce que le développement économique est une priorité, le développement social, d'un titre de Premier ministre. Au fond, je n'avais aucun argument pour refuser de faire mon devoir et essayer d'apporter deux expériences que vous avez soulignées, c'est-à-dire j'ai fait effectivement beaucoup de choses dans le domaine associatif et dans le domaine d'entreprise. Je pense que le marché est un moteur de développement économique aujourd'hui très important, que les entreprises sont au cœur du développement économique. Il n'y a pas que l'aide publique au développement. Il faut prendre le relais de l'aide publique au développement. Il y a des problèmes budgétaires dans tous les pays riches. Et donc les entreprises vont être de plus en plus importantes. Et puis la deuxième culture, c'est la culture de fondation, d'association. Parce que la société civile en Afrique, c'est le vrai moteur en fait de la croissance. Et le vrai moteur aussi de la règle de droit et de la démocratie.
Ouais, mais qu'est-ce qui vous a poussé au fond à accepter aujourd'hui l'offre du président béninois Boni Yayi de devenir son premier ministre, tout de même, alors que vous l'aviez refusé auparavant? Vous vous sentez quoi, mûr aujourd'hui pour quelque chose qui est une carrière politique, une carrière entièrement consacrée au fond à l'intérêt public, à l'intérêt général, et que ce n'était pas le cas avant?
Non, mais vous arrive des choses dans la vie. Par exemple, je n'avais jamais été le patron d'une entreprise. Je l'ai été dans les 8 dernières années chez PAI, qui est un fonds d'investissement très important. C'est une chose d'être numéro 2 ou 3 dans une entreprise, c'est une autre chose d'être le patron d'une entreprise. Là, vous mesurez qu'en fait, on peut faire bouger les lignes, que une entreprise, ça finit par ressembler à son patron. Et au fond, animer une équipe gouvernementale, c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus envie de faire aujourd'hui, où je sais qu'il y a quand même un coefficient personnel important. On n'a que 10 mois. Donc c'est un CDD, puisque le mandat du président s'achève dans 10 mois au Bénin. On a une tradition d'alternance, de transition démocratique. Donc nous avons 10 mois pour agir.
Ouais.
Quand on a l'habitude d'animer une entreprise, 10 mois, en 10 mois on peut redresser une entreprise. En 10 mois, une famille peut faire beaucoup de choses. Mais un pays, en général, en 10 mois, ça ne fait pas énormément de choses. Et donc le fait d'avoir l'expérience de l'entreprise, du monde associatif, je me suis dit là non, je peux pas me dérober franchement. Mon expérience a changé en 10 ans. On m'a proposé effectivement cette responsabilité.
Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé quand même?
Mais il y a énormément de choses qui ont changé. Par exemple, j'ai fait d'ailleurs avec vous plaidoyer pour l'Afrique, pour que notamment l'Europe, qui prenait beaucoup de retard, regarde l'Afrique comme elle est, c'est-à-dire en pleine renaissance, avec une croissance forte, avec des options aujourd'hui de redistribuer, de parvenir à plus d'égalité, avec une classe moyenne forte, avec une opinion publique qui se forme. Ce plaidoyer, je l'ai fait pendant 10 ans. Je l'ai fait beaucoup à France Culture, mais je l'ai fait pendant
18 ans. À tel point, quand vous appelle, vous connaissez votre surnom qu'on répète sans arrêt, l'afro-optimiste.
Oui, c'est ça. Il y a 10 ans, on appelait ça l'afro-optimiste Béa.
Béa.
Et c'était absolument ridicule. Aujourd'hui, objectivement, les gens regardent l'Afrique. C'est peut-être parce que l'Afrique fait à peu près 5 fois la croissance de l'Europe depuis plusieurs années. On est très, très, très loin d'être sorti de la pauvreté. Mmh. Soyons très, très clairs. Mmh. Simplement, à 5% l'an, on sort quand même plus vite de la pauvreté qu'à 2% l'an, si vous voulez. Et il y a des options que nous avons sur la table. Et maintenant, je ne peux pas dire que rester dans le domaine intellectuel et refuser de passer à l'action, c'est raisonnable. Je pense que vraiment, c'est très important, même pour les gens qui m'ont fait confiance quand je leur expliquais, regardez les vrais chiffres. Ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des jeunes gens qui sont entrepreneurs, il y en a énormément en Afrique. Il faut passer à l'acte. Ouais. Et les actes, c'est quand même plus difficile que la théorie.
Bon, et passer à l'acte, ça veut dire que dans 10 mois, vous pouvez troquer votre CDD de Premier ministre contre peut-être, qui sait, un CDD de président de la République.
Oui, alors, Marc, vous avez observé, en fait, on est, enfin, ça arrive dans des grandes institutions audiovisuelles, mais enfin, dans une République, on n'est pas nommé président, vous voyez.
Oui, mais
on est élu. On est nommé Premier ministre.
Il y aura des élections.
Et on est élu président.
Il y aura des élections.
Oui, alors, nous avons une particularité. Nous avons une particularité au Bénin. Nous avons déjà 20 ou 30 candidats à la présidentielle pour 10 millions d'habitants. Ouais. Donc, vous voyez, ça ferait quand même 120 si on était en France, si vous faites le rapport des populations. Et évidemment, parmi eux, il y a des gens formidables. Donc, une chose qui est une bonne nouvelle, si vous voulez, c'est qu'on a de très bons présidentiels. Donc, il y a le choix. Et ça ne rend personne, si vous voulez, obligé de se présenter.
On vous présente souvent ce que vous êtes biographique. Graphiquement parlant, Lionel Zinsou, comme franco-béninois, une mère française, un père béninois, qui était d'ailleurs le médecin de Léopold Sédar Senghor. Pendant très longtemps, vous avez représenté, au fond, la France à l'étranger, sous diverses missions, sous le fait de votre personnalité et votre travail, votre métier. Aujourd'hui, est-ce que vous vous dites finalement que vous réinvestissez davantage le côté béninois du bonhomme Zinsou?
Mais absolument, si vous voulez. Je crois que Léopold Sédar Senghor, puisque vous prenez cet exemple, ne s'est jamais excusé d'avoir été en 1955 un ministre de Guy Mollet. Je crois que Félix Houphouët-Boigny ne s'est jamais excusé d'avoir été ministre d'État du général de Gaulle en 1958. Vous me direz, c'était il y a 60 ans. C'est possible, mais il se trouve que c'est ça l'histoire. Quand vous êtes métisse, vous assumez complètement le fait que vous êtes et tout à fait africain, et tout à fait européen, et que c'est indissociable en vous, et vous avez, vous mélangez pas les loyautés. Quand vous êtes dans une fonction publique, vous faites votre devoir. Senghor, c'était un nationaliste qui a inventé et fabriqué le Sénégal. Félix Houphouët-Boigny était important quand même pour l'identité ivoirienne. Non, je n'ai aucun complexe, mais c'est vrai que c'est au Bénin, c'est quand même quelque chose qui est souligné. Ce garçon est-il français ou est-il béninois? Et ça pose problème. Mais c'est, si vous voulez, moi j'ai ressenti que j'étais noir en France pendant 60 ans. Voilà que je commence ma carrière de blanc en Afrique. C'est une expérience humaine extrêmement agréable. Vous êtes légèrement discriminé quand vous êtes noir en France, comme vous l'avez peut-être noté. Probablement moins si vous êtes le patron d'une entreprise financière, si vous appartenez à une espèce d'establishment académique comme ça. Mais je vais faire l'expérience, voir si on est légèrement discriminé en Afrique quand on est un Africain blanc.
Vous allez devoir quitter la tête de Paribas Affaires Industrielles.
Ah oui, bien sûr, c'est comme... incompatible. Ce que je vais faire avec France Culture, parce que l'émission de Philippe Meyer, je crains de ne plus pouvoir y aller très souvent.
Oui, j'aurais dû dire, vous voyez, que vous êtes aussi un des éminents sénateurs, comme on dit, de l'émission de Philippe Meyer.
Non, mais bien sûr, toutes les fonctions exécutives, et j'étais le président directeur général de l'entreprise, sont incompatibles avec une mission publique.
Aujourd'hui, Lionel Zinsou, pour revenir sur les questions africaines et sur lesquelles d'ailleurs aussi nous débattrons et nous parlerons avec Bill Gates tout à l'heure à 8h15, certains disent de l'Afrique qu'elle est une bombe à retardement. Il y a eu un rapport Baumel à l'Assemblée nationale que la Commission des Affaires étrangères avait décidé de ne pas publier en mai dernier, qui a préféré le faire modifier. Cela donnait lieu à un débat où un député de l'UMP, ancien ministre, Pierre Lelouch, a déclaré que l'Afrique n'était pas du tout une chance, que c'est une bombe, un continent à la dérive, 1 million d'Africains qui veulent envahir l'Europe et que c'est une immigration de la misère. Vous voyez comment cette approche de l'Afrique, Lionel Zinsou?
Oui, j'ai pensé en lisant cela pour Monsieur Lelouch, que je respecte par ailleurs, à ce que disait François Mauriac, d'un politicien qui prenait des positions un peu inquiétantes, un peu absurdes sur Madagascar, où il venait d'avoir une répression terrible après-guerre. Monsieur X n'est décidément pas non plus un spécialiste des questions malgaches. Ben, je crains que Pierre Lelouch, qui a tant de mérite, ne soit pas du tout un spécialiste des questions africaines. L'Afrique n'est pas une bombe à retardement, c'est une magnifique chance pour l'Europe.
On dit qu'elle est une chance aussi pour la francophonie, hein, par exemple.
C'est une chance pour la francophonie, et je crois que, au fond, dans la continuité, les pouvoirs publics, y compris le gouvernement auquel appartenait Pierre Lelouch, ont agi en considérant que l'Afrique était une chance et que cette chance devait être sauvegardée, protégée, accompagnée, et la France est une excellente alliée de cette Afrique-là. Le million de gens qui sont prêts à envahir l'Europe est un fantasme politique, probablement destiné à la campagne électorale française. C'est indigne de parler d'un million d'Africains qui rêvent d'envahir l'Europe. C'est jouer sur les peurs et les fantasmes les plus médiocres. C'est pas ça du tout la situation. Il y a des pays en guerre. Il y a des Érythréens qui préfèrent le risque de mourir en Méditerranée. Il y a les Soudanais du Darfour. Ça, on ne va pas le nier. Il y a pour moitié des Syriens qui embarquent dans ces bateaux. Il y a un trafic d'êtres humains. Il y a des gens qu'on force à monter sur des bateaux parce que le trafic d'êtres humains est la principale ressource parafiscale de Daesh et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il faut regarder les choses en face. Ce sont des choses qui sont liées à la guerre et qui sont liées au crime.
Est-ce que pour vous, il est plus inquiétant, justement, en revanche, et ça concerne bien sûr les Africains, et parmi les Africains, les musulmans africains, la fameuse diagonale du terrorisme, hein, qui est quelque chose qui vous préoccupe, vous en avez parlé récemment dans la tribune, Lionel Zinsou. Et ça, que fait le tout nouveau Premier ministre qui est arrivé au Bénin, à son échelle, qui est à la fois grande, il est Premier ministre d'un État, et à la fois petite, c'est le Bénin, et le Bénin n'est pas toute l'Afrique, quoi l'idée?
C'est trop petit pour agir seul, oui, et vous remarquez qu'il y a de plus en plus de coalitions.
Il y a le Togo à côté quand même, mais qui est tout petit aussi.
Et on peut s'ajouter d'autres partenaires. Oui. Et vous avez remarqué qu'il y avait des coalitions qui se forment. Vous avez remarqué sans doute qu'il y a une montée en puissance de l'Union africaine et de l'Organisation régionale de l'Afrique de l'Ouest, la CDEAO. Enfin, on a besoin de coalitions d'acteurs, sinon on ne peut rien. Il faut bien que vous voyez que le budget de Boko Haram au Nigeria, le budget d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, par rapport au budget de défense d'un État isolé de l'Afrique de l'Ouest, c'est probablement un facteur 10. L'ennemi non conventionnel que nous avons en face de nous est un ennemi qui est très organisé, très financé par des moyens que l'on connaît. Le narcotrafic en Afrique de l'Ouest a pour destination principale l'Europe, évidemment, mais le péage, il est payé évidemment au mouvement terroriste. Donc, effectivement, il faut agir de façon très groupée et il faut moderniser énormément. Ça passe par beaucoup d'efforts de renseignement, beaucoup de professionnalisation des armées. On va avoir à faire en paix et sécurité des efforts très importants compte tenu de la menace. Et effectivement, si c'est diagonale...
Ça fait partie des dossiers qui sont au-dessus de la pile quasiment sur votre bureau de Premier ministre béninois, Lionel Zinsou.
Moi, je suis chargé de développement économique. Il n'y a pas de développement économique s'il n'y a pas de sécurité. L'investisseur, l'entrepreneur local, il ne peut vivre que dans une ambiance de sécurité. La menace de Boko Haram est quelque chose d'absolument extraordinaire sur la plus grande économie du continent, qui pèse plus du quart de l'économie du continent, qui est le Nigeria. Donc ça, c'est évidemment la précondition d'un développement harmonieux. Le Kenya ne peut pas être attaqué tous les jours quand le tourisme est une ressource importante, quand la logistique, c'est un vrai hub logistique. Le Kenya, quand il est attaqué exactement sur tous les points où ça fait mal économiquement, par les Chebab. Et effectivement, si cette diagonale qui va grosso modo du nord du Maroc jusqu'à la Corne de l'Afrique et descendant jusqu'au Kenya, si elle était continue, l'Afrique, politiquement, éclaterait. C'est impossible de ne pas agir ensemble contre cette diagonale du terrorisme.
Alors quel est le dossier au-dessus de la pile en ce qui concerne le Bénin? Nous sommes écoutés au Bénin, hein, par Internet. De Nati Tingou à Cotonou.
L'emploi. Si vous voulez inverser la courbe du chômage, qui est un thème français, est un thème mondial. Non, l'emploi des jeunes. On est dans une situation dans laquelle, à 5% de croissance, normalement, on crée des emplois.
On en rêverait ici. Hein.
Normalement, on crée des emplois. En France, on créerait des centaines et centaines de milliers d'emplois par an. Dans l'état des économies africaines, on fait 5% de croissance avec des constructions d'infrastructures très intensives en capital, mais pas en travail. Avec de l'énergie où il n'y a pas de travail, il y a du capital à mettre en œuvre. Avec des mines, mais il n'y a pas de travail. Avec une modernisation de l'agriculture dans laquelle plus vous modernisez, plus vous libérez de la main-d'œuvre. Au lieu de la fixer.
Comment est-ce que l'homme d'affaires que vous êtes, le patron d'entreprise, le banquier que vous êtes, explique justement, et en mots clairs pour ceux qui ne le saisissent pas encore, pourquoi le capital ne crée pas du travail aujourd'hui?
Si vous voulez, pour un euro que vous investissez au Bénin, vous allez créer 3 à 4 fois moins d'emplois que pour un euro que vous investissez en France, ouais. Simplement parce que nous devons faire des centrales électriques, nous devons faire des routes. Ça, ça n'emploie que très très peu, ou pas du tout, de salariés une fois que c'est construit. Là où votre euro investi en France, c'est pour des services, c'est des activités où l'emploi est très important, qui génère de l'emploi. Et ça va durer assez longtemps parce que c'est de la nature des choses de devoir quand même d'abord équiper. Et dès qu'on pourra passer à une phase plus industrielle ou de services modernes, on créera suffisamment d'emplois. Mais au niveau de 5% de croissance, on n'est pas encore dans cette situation-là. Et donc vous avez une montée du chômage des jeunes, alors que les jeunes ont complètement changé. Non seulement ils sont sur les réseaux sociaux, non seulement ils s'organisent, mais surtout ils sont alphabétisés et ils sont formés et ils sont très qualifiés. Alors vous avez des réponses. Moi j'ai visité il y a 2 jours au Bénin une équipe qui est un start-up studio qui est en train de faire naître des start-up numériques. Vous avez, pour les gens les plus qualifiés, vous avez énormément de capacité d'être auto-entrepreneur et de créer des start-up. Et vous pouvez répondre par l'esprit d'entreprise. Même chose dans l'agriculture, où vous avez des gens mieux formés qui peuvent se mettre au travail, changer les façons culturelles. Et d'ailleurs, Bill Gates va vous en parler parce qu'il fait porter grande partie de son effort sur l'agriculture. Mais ce sont encore des trajets individuels.
On lui reproche de travailler parfois avec Monsanto. Donc,
parce que lui est pour l'intensification, c'est un débat, il est pour l'intensification maximum parce qu'il faut du rendement compte tenu des besoins nutritionnels de l'Afrique. Mais c'est une controverse que vous pouvez évoquer avec lui.
Dans un instant, vous l'avez dit, Lionel Zinsoud, nous souhaiterons la bonne arrivée à Bill Gates. Vous dirigez toujours Fondation Africa France ?
Oui, parce que c'est une fondation publique-privée qui est africaine et française, donc j'ai simplement changé de casquette, j'ai enlevé ma casquette française et je serai co-président parce qu'il faut des gens présents en France pour convaincre les entreprises françaises de partir à la conquête de marchés et surtout de se chercher des partenaires. Et moi, je le ferai de l'autre côté, qui est de convaincre les entreprises africaines, qui le font de plus en plus, c'est complètement ignoré en France, d'investir aussi en Europe et de construire des partenariats. Vous avez aujourd'hui de grands investisseurs africains en France. Je crois que les Français ne s'en sont pas encore aperçus, mais c'est pas mal pour créer des partenariats qui, à la fin des fins, finiront par s'équilibrer.
Alors, Lionel Zinsou, tout à l'heure, on fera parler. Cet homme que l'on considère comme un chef d'État mondial, par sa richesse et son rayon d'action, Bill Gates. Vous allez faire des jaloux parce que on sait que vous avez dîné avec lui hier soir après la réception au ministère des Affaires étrangères. Vous vous êtes dit quoi? La grande blague ici, c'est chaque fois qu'on dit qu'on voit Bill Gates, tout le monde dit demandez-lui un petit truc, machin, c'est rien. Vous avez demandé quoi, oui.
Alors c'était extraordinaire.
Il travaille avec le Nigeria, il travaille avec d'autres pays, mais pas tant que ça avec le Bénin.
Non, autour de lui, il y avait des chefs d'entreprise français pour l'essentiel.
Mais il y avait aussi le Premier ministre du Bénin.
Oui, puis je crois que j'ai été invité comme chef d'entreprise français et que je suis arrivé au dîner par surprise en responsable gouvernemental africain, mais ça c'était pas prévu. Mais je crois qu'ils ont maintenu l'invitation à dîner. Non, si vous voulez, personne ne lui a rien demandé. Tout le monde a exposé ce que, pour les plus grandes entreprises, ce qu'était le sens de la responsabilité sociale de ces entreprises vis-à-vis de l'Afrique. Et il y a un credo, il était autour de la table, évident, c'est celui du partenariat de plus en plus nécessaire entre des mondes qui s'ignoraient et qui ne s'aimaient pas et qui sont le monde des grandes entreprises qui ont des moyens considérables, qui ont un pouvoir systémique, des fondations qui peuvent être très modestes ou très très puissantes. Là, vous étiez devant le fondateur de la plus puissante au monde, celle qui a changé les lignes du monde, et le secteur public et l'aide publique au développement. Et on peut faire des coalitions d'acteurs, et c'était les grands patrons français qui disaient, nous, on est prêts à foncer, et avec vous, ça va être encore beaucoup, beaucoup plus efficace.
Lionel Zinsou, invité des Matins de France Culture, et avec, dans quelques instants, d'ici un quart d'heure, oh my God.
Bill Gates? Oh my God!
Mr. Simpson?
You don't look so rich.
Don't let the haircut fool you, I'm exceedingly wealthy.
Bill Gates à 8h15 et vous aurez l'honneur, cher Brice Couturier, d'introduire cette deuxième partie comme chaque jour avec votre billet de 8h15. Brice.
Oui, Marc, je voudrais lui poser la question suivante. Les GAFA, les grandes compagnies du numérique, s'intéressent de plus en plus à la médecine. Est-ce que c'est par philanthropie pure ou parce que la médecine est devenue la nouvelle frontière des high-tech, celle dont les innovations auront des effets d'entraînement sur toutes les autres?
Voilà, et c'est magique, la radio, au moment où nous prononçons le nom de Bill Gates, nous le voyons arriver dans les couloirs de France Culture. Restez donc à l'écoute. Dans un quart d'heure, notre invité avec Lionel Zinsou, le fondateur de Microsoft, aujourd'hui président d'une fondation, la fondation qu'il dirige avec sa femme, et nous parlerons de toutes ces questions. Notamment, nous sommes à un mois d'une grande conférence à Addis Abeba sur des questions de santé, hein, Lionel Zinsou.
Oui, l'Afrique, on l'a dit, sur la paix et la sécurité, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour le changement climatique. L'Afrique commence à parler d'une voix sur les problèmes les plus importants.
Autant de sujets que nous abordons avec vous et bien sûr avec Bill Gates à 8h15. Pour l'heure sur France Culture, il est 8h.